projet s'appelle Unité de Land. C'est un projet qui est à la base photographique, mais bon, avec des installations, des projets sonores, des projets vidéo, etc. Et ce projet est venu en fait d'une image à la base qui vient du tsunami de 2004 qui a eu en Indonésie. Et il y a une image que j'ai découpée dans le journal qui m'est restée. Donc c'est, en fait, moi j'ai commencé mon projet en 2009, donc ça a duré 4 ans, où je suis resté concentré sur cette image à essayer de l'interpréter parce qu'elle changeait complètement de ce qu'on a l'habitude de voir dans les sujets sur les tsunamis où c'est souvent très apocalyptique et on demande des gens en train de courir. Et là, il y avait vraiment quelque chose comme si l'eau était restée à l'endroit et qu'elle ne s'était pas retirée. Et voilà, le cadrage et tout, ça m'a fait quelque chose d'assez particulier. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de réinterpréter la planète, en fait, avec l'eau qui aurait monté et qui ne serait jamais redescendue. Parce que dans un tsunami, normalement, ça redescend. Là, en l'occurrence, je me suis dit, bon, il y a quelque chose d'assez original dans ce projet, même si en fait on est bombardé d'images apocalyptiques. Là, je me disais, essayons de trouver une interprétation différente. Et puis voilà, donc j'ai essayé de réfléchir à comment monter un projet de montage entre différentes villes de la planète et puis donc des paysages sous-marins, j'ai commencé donc à entrevoir un voyage en fait pour faire une plongée dans un atoll en Polynésie, pour prendre plein de paysages sous-marins, de matière, de fond sableux, de toutes ces choses. Là, c'est vraiment une zone où tu as, 50 atolls différents qui sont en fait des anciens volcans qui se sont écroulés sur eux-mêmes et qui ont donné ces bandes de terre comme ça qui restent et qui sont, à un mètre au-dessus du niveau de la mer. Moi, je trouvais aussi intéressant de confronter mon projet finalement à la montée des eaux, parce que ça, je pense que dans quelques années, c'est quelque chose qui va disparaître et qui n'hésitera plus. Et donc, ils sont déjà en train de se battre contre la montée des eaux avec des digues en béton, etc. Mais c'est peine perdue. C'est vraiment, quand on voit ça, en fait, on comprend tout de suite que ça ne peut pas durer très longtemps. Voilà. Donc, c'était la première étape. En fait, j'ai entrepris une série de voyages pour pouvoir... commencer mon projet, commencer à faire des montages, donc de partir à Tokyo en premier lieu. Ensuite, il y a eu New York. Et là, j'ai commencé à travailler sur des premiers montages, en fait, d'incruster les fonds sous-marins avec les prises de vue de ville. Mon premier test vraiment important était à New York, où on est parti à plusieurs. J'ai réalisé ces montages sur place, un petit peu, des tests. C'est vraiment la première image que j'ai montée de Times Square en fait à New York sous l'eau, donc avec les mêmes fonds sous-marins que j'avais pris en plongée, où j'ai utilisé une technique en fait de photographie en longue pause, où j'ai trouvé un filtre là-bas qui diminuait la luminosité globale, et en fait j'ai réussi à prendre des longues pauses qui faisaient disparaître en fait tout ce qui était en mouvement. Donc on voit plus de personnages, on voit plus de voitures, mais en fait ça c'est Times Square à 8h du matin avec 500 personnes qui arrêtent pas de courir partout. Et donc j'ai expérimenté cette technique là-bas pour avoir vraiment que des paysages sans activité. Après tout, avec un travail de montage entre la matière de l'eau, etc., les reflets. J'ai travaillé un peu sur l'usure des bâtiments, etc. Mais bon, pas trop finalement, pour que ça reste un peu à un certain niveau de montage. C'est pas l'idée de faire un truc parfait. Voilà, donc après, suite à ce projet-là, je me suis dit qu'il fallait que j'ai une direction un peu plus claire sur ce que j'allais faire. Et donc j'ai créé une carte en fait de survie, c'est un survival map, ça s'appelle, où en fait je me suis arrêté à un point qui est 300 mètres au niveau... de niveau de mer par rapport à aujourd'hui, et donc redessiner la carte du monde avec ces 300 mètres en plus, en inclusant donc tout ce qui est building, construction faite par l'homme, et puis volcan, donc toutes les petites étoiles en fait, c'est les immeubles qui dépassent de 300 mètres. Pour l'instant en Europe il n'y a que la tour Eiffel. Et après donc essayer d'axer mes voyages photographiques en fait sur cette carte et de vraiment cibler les choses que je vais photographier.
Question François, comment tu as trouvé toutes tes données pour faire ça?
Ça, c'est des données topographiques en fait de la NASA. Ils ont, t'as des sites web en fait qui référencent toutes les hauteurs.
Ils ont le delta, etc.
Et en fait, donc ils ont, voilà, après ils ont des prises de vue de satellite avec différentes couleurs et tu arrives à séparer en fait avec les échelles, les couleurs pour avoir juste ce qui dépasse de 300 mètres à peu près. C'est approximatif, mais c'est à peu près ça. Après, il y a aussi des données en fait sur tous les immeubles de la planète avec le hauteur. La hauteur du maximum qu'ils ont, plus la hauteur des antennes, etc. Donc tu peux avoir faire une liste précise et puis avoir cette, cette carte. Oui, c'est un travail assez balèze. Mais en plus, il y en a plein qui sont en construction, qui ne sont pas encore finis, etc. Mmh. Donc c'est pas finalement... C'est une carte qui peut bouger tout le temps. En tout cas, voilà, je m'oriente là-dessus pour mes prochains projets. Et donc... À la suite de cette carte, en fait, j'ai beaucoup réfléchi en fait au concept de l'inversion des pôles, puisque c'est une théorie qui vient d'être officialisée par les chercheurs, comme quoi les pôles de la planète en fait s'inversent tous les 10 000 ans, 3 milliards d'années, on ne sait pas trop, et ils peuvent pas se prononcer sur le prochain mouvement de pôle. Et en fait, il y a des théories de chercheurs qui disent que dans les inversions de pôle, il y a une possibilité assez importante de mouvement de courant considérable et qui ferait bouger en fait toutes les calottes glaciaires de la planète et qui les ferait se déplacer. Et en même temps, elles fondraient et elles feront monter l'eau d'une manière super, super, super puissante. Je suis parti sur cette théorie en fait pour l'origine du projet et d'imaginer comment ça pourrait être avec une montée des eaux progressive comme ça suite à une inversion de pôle magnétique. Et je me suis dit que, enfin, il y a un chercheur qui a dit que en fait la glace se déplacerait en fait du nord au sud et du sud au nord, et finalement là ça changerait totalement la météo de la planète. Et je me suis dit que j'allais incruster finalement tous les buildings de Dubaï, etc., dans la glace. J'ai voulu faire ça et je me suis dit, bon, j'ai entrevu un voyage au Groenland. Je suis parti en février dernier pour prendre des images d'iceberg, de mer gelée, etc., et puis d'essayer de développer mon projet avec toute cette inversion des pôles sur incruster vraiment l'architecture dans la glace. Donc, en fait, c'est un projet qui n'a pas de fin. C'est vrai qu'à chaque fois que je voyage, je prends des images, c'est un truc assez vampirisant, et j'essaie de cartographier vraiment tous les endroits où je peux aller et de les inclure, que ça soit sous l'eau, donc avec les paysages sous-marins bleus, ou alors au-dessus avec vraiment une incrustation dans la glace ou au-dessus de la mer. Donc en fait, ce projet n'est pas uniquement photo. À chaque fois, bon, j'ai des idées qui viennent se greffer. J'ai fait une installation donc qui s'appelle 2000 ans de traversée, qui est une installation en béton avec un système de goutte à goutte qui tombe dessus et qui émet un son sur des capteurs de vibration. Donc ça joint un peu l'usure, enfin la matière, etc., et l'usure de par rapport à l'eau, ce qui peut se produire. Donc je monte des installations de ce type-là qui sont parallèles au projet. Voilà, j'ai aussi des installations de drapeaux qui représentent un peu l'unification totale des territoires, puisque en fait, sous l'eau, il n'y a plus du tout d'appartenance géopolitique. Et j'ai voulu vraiment représenter cet espace d'apaisement par rapport aux conflits de territoire, etc., qui sont toujours présents dans notre société. Donc voilà, il y a un axe central photographique, mais après, bon... Voilà, j'essaie de creuser le sujet en fait avec des installations, avec différents discours autour des territoires, de ce que peut engendrer en fait la montée des eaux et la modification des territoires qu'on connaît maintenant. Parce qu'en fait, quand on voit l'eau qui monte ou un tsunami qui arrive, en fait, c'est pas seulement un pays, c'est plein de pays. Et en fait, les frontières disparaissent. C'est-à-dire que l'eau abolit totalement les frontières. Et comment réfléchir à la suite de ce que pourrait être un tsunami qui reste en place, et comment redéfinir les frontières modifiées en fait, et comment se les réapproprier, c'est une question enfin, auquel je réfléchis tout le temps. Je me dis.
On avait fait une réflexion sur le fait que, voilà, sur cette installation, c'est comme c'est lié à l'électricité et que, par exemple, on appuie et la lampe reste allumée chez moi toute une nuit, etc. De la même manière, toi, tu fais un projet qui, tu vois, parle quelque part quand même d'écologie ou en tout cas d'anticipation catastrophique sur le changement climatique. Et on a tout de suite en tête, tu vois, la taxe carbone ou la dépense que ça peut être de prendre un avion pour aller, tu vois, sur un atoll.
Bien sûr.
Et en même temps, c'est super intéressant parce que l'art est un des polluants de la planète.
C'est sûr.
C'est évident. Et moi, je pensais notamment à Gustave Metzger qui avait fait dans les années 60 déjà, qui prophétisait ça et qui avait fait une série de projets qui s'appelait Destructive Art. C'est un gars dont on est en train d'excaver la pratique et les œuvres parce qu'il a été quasi jamais montré. Et on est en train de le redécouvrir et tout le monde se dit mais c'est fou, lui il a 50 ans d'avance par rapport à nous. Et il disait mais l'art est un polluant et on va pas s'arrêter de faire de l'art pour autant. Et en même temps, ça cristallise un peu toutes les peurs et toutes les peurs qu'on peut avoir sur.
C'est parce qu'on est dans une période en fait qui doit trouver une utilité à chaque action et chaque objectif. Mmh. Et là effectivement l'art n'a aucun but. De production de quelque chose qui serait utile à l'humanité, c'est juste cérébral, mais donc effectivement oui c'est quelque chose qui est polluant dans la quantité.
Et c'est super marrant parce que c'est quand par exemple on fait des tirages photos qui sont effectivement hyper polluants, personne se pose la question de la portée écologique de faire développer des photos, mais quand tu fais par exemple un projet comme ça où tu prends un avion, là d'un seul coup c'est hyper visible. Mmh. Tu vois, et de la même manière, quand tu allumes une lampe, alors que c'est une lampe, c'est hyper visible aussi. Et on n'envisage pas des choses de la même manière, c'est assez.
Disons que j'avais pas l'idée de faire un discours écologique sur ce sujet. C'est pas le but principal de la chose, mais en fait, c'est plutôt une question de territoire et puis de.
Oui, ce que je pense intéressant, c'est la démarche, en fait, c'est la façon que tu as évolué depuis le début du projet avec une idée au début, et puis que tu as intégré des concepts petit à petit, l'eau qui est unificateur, l'eau qui est partout, l'eau qui monte, les pôles qui chantent. Ce qui est intéressant au début, c'est l'évolution qui était naturelle, quoi, qui est venue pas dans 10 ans, j'ai une butte qui est là et j'y vais, mais c'est petit à petit, tu as vu des choses qui se connectaient au projet, qui le rendait plus rond, plus profond. C'est ça que je trouve vachement intéressant.
C'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps entre l'origine, enfin cette fameuse image que j'ai de notre départ et essayer de comprendre pourquoi j'allais faire un projet de ce type-là. Parce que on a tous un fantasme d'apocalypse ancré en nous. Enfin, c'est un truc Hollywood, on est complètement submergé d'images. Et depuis que je suis gamin, moi, tous les films de zombies, d'apocalypse, je suis un grand fan. Et donc inconsciemment, cette image m'a attiré, mais c'est pas le but principal, puisque j'ai passé 4 ans à la regarder, à réfléchir à un projet. Mais vraiment sur comment ça peut se passer si tout est différent et la planète est différente et les territoires n'existent quasi plus, ou comment les gens vont réagir, ou comment réinterpréter l'espace et redéfinir leur espace qui reste, en fait, c'est une grande question.
Il n'y a jamais d'humain, non.
Parce que j'imagine que c'est impossible de rester vivant, même si on perd un tiers de nos territoires. Je pense que ce sera une telle cacophonie qu'on sera voué à la destruction. Enfin, ça me paraît évident.
Et